Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Claude Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien conseiller au centre Asie de l'IFRI, éminent spécialiste du modèle chinois, et vous venez aujourd'hui nous parler de votre dernier ouvrage. Il s'appelle « La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial ». C'est aux éditions de l'Aube. Dans l'avant-propos, on peut lire que ce livre aurait pu s'intituler « Le rêve chinois de Xi Jinping, cauchemar de l'Occident et menace pour l'ordre mondial ». Puisque dans ce livre, vous décryptez la volonté hégémonique de la Chine, ma première question sera donc la suivante. Quel est le rêve chinois de Xi Jinping?
Eh bien, le rêve chinois, il faut, pour le comprendre, avoir en tête d'une certaine façon l'histoire immémoriale de la Chine et remonter au XIXe siècle. Après donc la primauté de la Chine, on a eu la phase des humiliations par les nations occidentales. Et dans la psyché, dans l'inconscient collectif, c'est toujours présent. Et ça explique effectivement ce terme de rêve chinois de la renaissance de la nation chinoise, c'est le terme officiel. Renaissance, donc, sous-entendu après le déclin entraîné par les Occidentaux. Donc ça reste véritablement quelque chose d'imprimé dans la mémoire collective. Et donc, le but de ce rêve chinois, c'est de restaurer la primauté passée de la Chine. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement et brutalement? Ça veut dire supplanter les États-Unis dans toutes les dimensions de la puissance économique, technologique et militaire.
Et alors pour ce faire, le grand œuvre de Xi Jinping est ce que l'on nomme le BRI, les nouvelles routes de la soie, BRI pour Belt and Road Initiative. Ce BRI, c'est aussi un goulot d'étranglement. Il plonge de nombreux pays dans la dette et donc dans la redevance envers la Chine.
Tout à fait. À partir de 2018, on a effectivement, la Chine a dû faire face à un certain nombre de défauts de paiement de la part de certains pays traversés par les routes de la soie, puisque en fait, c'est difficile, c'est un peu technique, mais il y a une partie investie par la Chine, mais la plupart des investissements sont financés par emprunt auprès de la Chine. Et donc, on a une deuxième phase qui s'est instaurée en 2018, parce que la Chine doit maintenant, d'une certaine façon, sauver des pays qui sont complètement étranglés par la dette, en donnant de nouveaux crédits de sauvetage. Et donc, la BRI, ou quel que soit le terme qu'on emploie, effectivement, a changé un petit peu de méthode et de braquet, si j'ose dire, depuis 2018, et maintenant on s'achemine déjà sur des montants moins importants et des projets moins ambitieux.
Peut-on parler d'une forme de néocolonialisme de la part de la Chine, justement à travers l'usage de ces nouvelles routes de la soie? Je vous cite, dans votre ouvrage vous écrivez « La Chine dépouille l'Afrique de ses richesses, l'inonde de ses produits et étouffe l'essor industriel du pays d'accueil. Elle impose au personnel local des conditions de travail très pénibles et parfois dangereuses. Sa coopération internationale est défaillante car elle préfère faire cavalier seul. Ses pratiques compromettent les efforts des pays développés et des institutions internationales pour promouvoir une bonne gouvernance et faire progresser les normes en matière de droit du travail et d'environnement. »
Tout à fait. Ceci étant dit, pour rééquilibrer un peu, je dirais aussi quand même en deux mots le rôle positif que les investissements chinois ont pu avoir dans les pays en développement, notamment en Afrique, au niveau des infrastructures qui était le goulot d'étranglement pour la croissance de ces pays. Mais il est vrai que d'une certaine façon, les Chinois sont attirés d'abord par les ressources minérales, minières et autres de ces pays, si on parle de l'Afrique par exemple, exploités dans des conditions qui sont souvent déplorables du point de vue des droits humains, et surtout qu'il y a un effet relativement négatif sur la croissance de ces pays, dans la mesure où on a un échange de biens manufacturés à bas prix contre des ressources minérales précisément. Mais cette exportation de biens manufacturés chinois tue d'une certaine façon l'industrie locale. Donc on a une espèce d'économie de rente pour ces pays qui ne conduit absolument pas à leur développement.
Peut-on donc parler d'une démarche impériale de la Chine? Peut-on qualifier la deuxième puissance mondiale d'impérialiste?
Oui, une démarche impériale, oui. Impérialiste, le mot est tellement connoté je dirais, elle est prédatrice dans certains pays, incontestablement, mais c'est vrai que sa démarche est fondamentalement d'une expansion pour son propre intérêt sur les pays qu'elle considère comme vitaux d'un point de vue ou d'un autre, et pas du tout conformément au grand discours qu'elle tient dans les forums internationaux.
À la lecture de votre ouvrage, Claude Meyer, on comprend bien que le pouvoir chinois affectionne particulièrement les dates symboliques, et il y en a une tout à fait spéciale, c'est 2049. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Donc 2049, c'est le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et effectivement, les Chinois aiment beaucoup les dates symboliques. Par exemple, si on prend la question de Taïwan à l'arrière-plan, pour moi, je dirais l'anniversaire de la fondation de l'armée chinoise en 2027. Donc certains observateurs se disent « Ah, peut-être ça serait l'année où ?» etc. Et pour ce qui est de 2049, c'est effectivement la date ultime, d'une certaine façon, de la fin du processus de renaissance de la Chine pour arriver à quel résultat ? À la domination économique et technologique et à la parité militaire avec les États-Unis. Ils en sont très loin encore, à la fois en termes de budget, en termes d'équipement, en termes de bases à l'étranger, etc. Mais le but, c'est effectivement d'arriver à parité aux États-Unis et de se retrouver finalement comme leader mondial sur tous les autres plans.
En lisant votre ouvrage, donc je répète le titre, « La Chine de Xi Jinping menace pour la paix et l'ordre mondial » aux éditions de l'Aube, on comprend donc, puisque vous évoquiez Taïwan, ça m'y fait penser que la République populaire de Chine cultive une militarisation croissante en mer de Chine méridionale. Pensez-vous donc, Claude Meyer, que Xi Jinping va finir par aller chercher Taïwan ?
Ah, je crois que là, il n'y a pas de doute possible pour de doubles raisons. La première, c'est sa déclaration que ce problème désormais ne doit pas être laissé aux générations futures, comme ça a été le cas des dirigeants successifs de la Chine avant lui. Donc, il en fait une affaire personnelle. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, on a sur la militarisation de la mer de Chine méridionale, etc., on a effectivement une volonté de, disent-ils, reconquérir, qui est un terme impropre parce que la Chine a occupé Taïwan simplement deux siècles, de reconquérir, en tout cas de rattacher l'île à la mer patrie. Et ça, c'est une volonté inébranlable. Le deuxième élément, c'est que pour ce faire, il n'est pas soumis, comme nos dirigeants, et même comme M. Trump, à la loi électorale, et donc il dispose d'un mandat quasiment à vie pour mener à bien son projet. Ce qui fait que c'est très difficile de savoir quand les initiatives seront lancées de ce côté. Ils scrutent avec attention ce qui se passe en Ukraine, ils en tirent des leçons, c'est pas évident. Et vraisemblablement, de mon point de vue, ça sera une prise de contrôle, j'irai assez progressive dans la ligne de la stratégie chinoise classique, c'est-à-dire soumettre l'ennemi sans combattre. Donc je vois pas très bien une invasion amphibie qui est extrêmement complexe compte tenu des spécificités géographiques de Taïwan, mais beaucoup plus une escalade progressive dans ce qu'on appelle la zone grise, entre guerre et paix, de harcèlement aérien, naval, qu'on voit déjà à intervalles réguliers, puis progressivement une prise de contrôle ou une démoralisation aussi de la population taïwanaise, l'usage peut-être d'une quatrième colonne, de manière à ce que, au bout du compte, après notamment un blocus aérien et naval de plus en plus sévère, le fruit tombe de lui-même dans l'escarcelle chinoise et qui effectivement rattache l'île à la mer patrie.
Oui, mais la Chine n'est-elle pas obligée à cette escalade lente, puisque la modernisation de l'armée chinoise, la modernisation de ses équipements dépend pour beaucoup de la Russie. Vous l'écrivez, je vous cite, jusqu'à récemment, la modernisation des forces chinoises a beaucoup dépendu de la Russie pour les achats d'équipements sophistiqués, tels que les chasseurs aériens, les sous-marins et les destroyers. Mais la Russie est en guerre face à l'Ukraine. Cela ne ralentit pas le processus invasif de la Chine envers Taïwan ?
Non, je pense pas. Enfin, ça peut le ralentir au sens où ce qui apparaissait comme une opération spéciale de quelques jours en Ukraine se révèle être un conflit à long terme. Et donc la Chine en tire les leçons pour Taïwan. Donc ça peut ralentir le processus, peut-être, ou décaler de certaines années. Mais si on voit la relation Chine-Russie, la Russie, enfin, la Chine ne livre pas d'armes létales à la Russie, mais elle soutient son effort de guerre à travers tous les biens exportés, et notamment les biens qu'on appelle capacité duale, c'est-à-dire à la fois civile et militaire. Mais je ne pense pas que ça ait un impact direct sur la décision ou non d'envahir Taïwan.
Et deuxième partie de ma première question, est-ce que cette escalade aussi progressive lente de la part de la Chine est-elle pas due au fait qu'elle ne sait pas se battre, selon plusieurs commentateurs, en raison de son manque total d'expérience concrète du combat, la Chine est un tigre de papier.
Alors il y a deux problèmes là-dessus. Le premier, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire que l'armée chinoise, pour revenir à votre question, l'armée chinoise a quand même dans les 10 dernières années, progresser du point de vue technologique d'une manière absolument remarquable et en capacité de produire ses propres appareils, la plupart du temps. Donc la seconde chose, rappelez-moi, je perds le fil là.
Oui, la Chine qui n'a aucune expérience en combat, qui est considérée selon certains commentateurs comme un tigre de papier.
Absolument. Et effectivement, à part conflits pratiquement à demi perdus avec le Vietnam, trentaine d'années, il n'y a aucune expérience de combat, d'une part. D'autre part, l'armée chinoise, contrairement à l'armée américaine, a peu de capacité de projection à l'étranger. Et le problème peut-être le plus important, semble-t-il, c'est un problème politique. L'armée chinoise, traditionnellement, c'était un peu un état dans l'état. Quand Xi Jinping est arrivé, il a voulu mettre de l'ordre d'une part au niveau de la corruption, qui était extrêmement importante, mais aussi pour s'assurer de la loyauté, qui était assez douteuse chez certains grands commandants en chef, etc. Et donc on a assisté l'an dernier à des expulsions en cascade de ministres de la deux fois, ministres de la Défense, de très haut gradé, etc. Il n'est pas sûr que la loyauté de l'armée chinoise à l'égard de Xi Jinping soit totale, et on n'est pas sûr non plus que l'armée chinoise, et plus largement la population chinoise, théoriquement, évidemment, elle peut absolument récupérer Taïwan, mais qui est prêt à aller se battre pour récupérer Taïwan, c'est une question.
Oui, vous l'évoquiez, je vous cite ici, hein, parallèlement, Xi Jinping a conduit une impitoyable lutte anticorruption aux plus hauts échelons de la hiérarchie pour éliminer les éléments hostiles et s'assurer la loyauté totale de l'armée. Cette reprise en main par le Parti communiste chinois peut surprendre les observateurs occidentaux. Elle est pourtant dans le droit fil de la constitution chinoise qui stipule que l'armée populaire de libération, l'APL, est l'armée du Parti communiste chinois avant d'être celle de la République populaire de Chine, car ses missions sont de garantir la position du parti et défendre les intérêts nationaux. Finalement, ici, Xi Jinping revient à ce que Mao Zedong disait déjà en 1938, notre principe est que le parti commande au fusil.
Absolument, et ça c'est un point qui n'est pas très connu, mais effectivement, enfin, dans tous les pays du monde, l'armée obéit au pouvoir politique, à savoir le gouvernement, à travers le ministre des armées. Dans le cas de la Chine, c'est la commission militaire spéciale qui décide des grandes options. Et c'est pas le Conseil d'État, autre nom pour le gouvernement, qui décide des actions majeures.
Mais on comprend aussi que le principe est que le parti en Chine commande aussi aux banques et aux investisseurs, pas seulement aux fusils.
Ah oui, il y a une déclaration de Xi Jinping disant, voilà, le parti contrôle tout du nord au sud, de l'est à l'ouest, rien n'échappe, mais alors le contrôle est devenu sous le second mandat de Xi Jinping encore plus étroit. Ce qui motive mon changement de ton, d'une certaine façon, par rapport à un ouvrage précédent que j'avais publié, qui était beaucoup plus, comment dire, c'était après le premier mandat, on pouvait espérer une forme de libéralisation. Ça n'a pas été du tout le cas, au contraire.
Oui, puisque ce livre, celui dont nous parlons aujourd'hui, La Chine de Xi Jinping menace pour la paix et l'ordre mondial aux éditions de l'Aube, fait suite à votre ouvrage publié en 2018 aux éditions Odile Jacob qui s'appelle L'Occident face à la renaissance de la Chine. Il y a-t-il encore de la corruption en Chine aujourd'hui, Claude Meyer?
Oui, il y a de la corruption. Alors, c'est difficile pour moi de parler au niveau de la société puisque d'une part, je ne vis pas en Chine et d'autre part, je ne peux plus y retourner et faire du travail de terrain puisque j'en ai été expulsé pour un livre précédent sur les religions. Toujours est-il que il y a de la corruption au niveau local en particulier. Alors ça se voit pas trop, mais périodiquement il y a des manifestations dont on n'entend pas parler, mais contre la corruption de tel ou tel ou tel fonctionnaire, surtout au niveau des collectivités territoriales. Au niveau du sommet de l'État, il y en a, mais il y a eu quand même une épuration majeure qui était à la fois d'ordre réglementaire pour régler cette question de corruption, mais aussi pour éliminer des rivaux de Xi Jinping.
Pour revenir à la militarisation de la Chine, au-delà de l'armée de l'air et de la marine, la Chine développerait en secret, selon les USA, selon un rapport de 2023 du Pentagone américain, des armes chimiques.
Oui, il y a cette rumeur, enfin j'ai lu ça, je n'ai pas vu la source dont se prévaut le Pentagone pour ce type de déclaration. On ne peut pas l'exclure, mais moi je n'en ai pas la preuve.
Depuis tout à l'heure, on parle de la Chine et des États-Unis, nous mettons les deux puissances économiques mondiales en concurrence, et l'Europe dans tout ça?
Eh bien l'Europe, elle est... Ça dépend du point de vue qu'on prend. Apparemment, elle est prise en étau entre les deux puissances. La plus forte raison, d'ailleurs, on va le voir avec la guerre tarifaire, où on va avoir effectivement un regain d'exportation chinoise diverti des États-Unis qui vont nous arriver. Alors, je fais dans ce livre un acte de foi. Enfin, je dirais, c'est même plus un acte de foi, si on reprend le vocabulaire chrétien. C'est un acte d'espérance. C'est-à-dire, j'espère...
Oui, vous citez d'ailleurs Jean Monnet. Hein. Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé.
Voilà, c'est ça. Je pense que l'Europe, je pense théoriquement, que l'Europe a un rôle à jouer très positif et très différent de celui des États-Unis, parce qu'on a justement une histoire commune, culturelle, avec la Chine, avec l'épopée des Jésuites, etc., qui est un fondement incontestable... qu'on a un système économique et social très différent des États-Unis, qu'on a le même, comment dire, même dévotion au multilatéralisme, en tout cas parfois du bout des lèvres du côté chinois par rapport aux actes. Mais on a tout ce capital, donc ne pas calquer notre position sur celle des États-Unis, je parle là en termes généraux, non pas évidemment l'Amérique de Trump, à plus forte raison, et d'un autre côté, d'une extrême fermeté vis-à-vis de la Chine pour la défense de nos intérêts et de nos valeurs. Et donc il est assez piquant de voir Xi Jinping déclarer avant-hier au Premier ministre espagnol qu'il faut qu'on coopère avec l'Union européenne pour etc., quand depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, Pékin reste sourd aux demandes de l'Union européenne sur des tas de problèmes, hein, de déséquilibre. Donc il faut la défense de nos intérêts économiques et de nos valeurs, avec le problème que nous avons en Europe, sur ce plan comme sur beaucoup d'autres, le manque d'unité, avec des voix toujours discordantes, que ce soit dans le domaine économique, les intérêts de la France et de l'Allemagne ne sont pas ou n'étaient pas les mêmes, en tout cas, que sur les droits humains avec la Hongrie de Orban, etc.
Mais l'Europe peut-elle vraiment être cette puissance d'équilibre entre Chine et États-Unis dès lors que l'on sait que la Chine a miné certains pays en Europe, tels que la Grèce, la Hongrie, peut-être même aussi le Portugal, d'une certaine façon, le ver est déjà dans le fruit?
Oui, bien sûr, la Chine, c'est pourquoi c'est assez ironique d'entendre M. Xi Jinping avant-hier, c'est que la Chine, pour la Chine, l'Europe est un immense marché, extrêmement bénéfique, mais absolument pas une puissance.
Oui, en 2023, simplement, la Chine était le premier partenaire de l'Union européenne pour les importations de biens.
Voilà, exactement, mais ce n'est pas une puissance, c'est la réflexion de je ne sais plus qui, quel numéro de téléphone, Kissinger, je crois, quel numéro de téléphone pour l'Europe. C'est-à-dire, on a, effectivement, surtout avec l'élargissement quand même, une dispersion des décisions, un attentisme qui parfois me surprend, etc. Et, pour le dire d'un mot, un manque de leadership au sommet. Mais ça, c'est un point de vue personnel.
Claude Meyer, ce sera ma dernière question. Quel est le grand projet pour l'humanité de la Chine?
Ah, ce qu'il appelle un destin commun pour l'humanité. Alors là, il faut lire ces discours qui sont dans... On risque de tomber de sommeil parfois, tant ils sont verbeux, mais c'est effectivement des grandes phrases sur la culture, sur le co-développement, sur les valeurs, mais la démocratie n'est pas universelle, comme le dit l'Occident. Chaque pays doit trouver sa voie à faire sa démocratie. Suivez mon regard. À Pékin, nous avons notre modèle de démocratie. Les Occidentaux n'ont pas à nous imposer le leur.
Donc cette grande communauté d'avenir partagée pour l'humanité que nous souhaite en ce 21e siècle la Chine n'est en tout cas pas une communauté démocratique.
Elle est une communauté sino-centrée, plutôt anti-occidentale, pas seulement neutre, hein, anti-occidentale sur un certain nombre de valeurs, notamment certains droits humains, dans la mesure où le raisonnement chinois est de dire, vous nous parlez tout le temps de droits humains, pour nous, il y a les droits humains fondamentaux et les droits humains, d'une certaine façon, accessoires. Nous, nous faisons le job pour ce qui est de donner l'essentiel de ce qu'un individu dans notre pays est en mesure d'attendre, le gîte, le couvert, etc. Et c'est vrai que les faits leur donnent raison. Pour le reste, les droits humains, etc. Bon, en Occident, vous avez votre point de vue là-dessus. Pour nous, nous avons le nôtre. Nous voulons un État fort, sinon c'est le chaos en Chine. Donc il nous faut bien un certain nombre de moyens de contrôle.
C'est un tout autre pacte social que nous propose donc la Chine et on en sait plus quand on lit votre ouvrage. Il s'appelle La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Claude Meyer.
Merci à vous.